Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Gisèle Cage.
Bonjour chers auditeurs de Radio Kapi, voici les principaux sujets que nous allons aborder. Le Nord Kivu pleure à nouveau ses morts. Le territoire de Nyiragongo frappé par un massacre tragique. La nuit dernière, une dizaine de personnes tuées par des individus armés dans le village des Kabale Katambi. D'autres personnes également tuées à Goma au cours de la même nuit. Crise à la prison centrale de Kisangani. Manque de nourriture et de soins de santé appropriés pour plus de 1300 pensionnaires. La cohabitation entre les civils et militaires ayant fui les combats à l'est du pays aggrave la situation. Le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo promet de transmettre le dossier aux autorités compétentes. Recrutement des jeunes pour les FRDC à Beni, Butembo et Lubero. La MONUSCO et ses partenaires veillent à l'exclusion des mineurs. Hier, au centre de formation des Nyaleke, la MONUSCO, l'UNICEF et leurs partenaires ont retiré les candidats non éligibles. Le colonel Faustin Dakala, directeur de l'information et de l'orientation à la 34e région militaire au Nord Kivu, s'est exprimé sur la radio Okapi concernant le déroulement du processus de recrutement au sein de l'armée. Il est l'invité du journal. C'est tout pour les titres. Commençons par le Nord Kivu. Le territoire de Nyiragongo a été frappé par un massacre tragique la nuit dernière. Une dizaine de personnes ont été tuées par des individus armés non identifiés dans le village de Kabale Katambi, groupement Rusayo. D'autres victimes ont également été enregistrées dans la ville voisine de Goma au cours de la même nuit. Le récit de fait avec Étienne Lissumbo.
Des témoins rapportent que les assaillants porteurs d'armes à feu et armes blanches ont fait irruption dans le village vers 20h heure locale. Ils se seraient introduits dans des maisons et auraient exécuté les occupants. Un drame macabre s'est produit dans une maison où une famille entière d'au moins 9 personnes ont été froidement exécutées. Père, mère et les enfants ainsi que d'autres membres des familles. Une autre victime, un ancien candidat malheureux à la députation provinciale, circonscription des Nyiragongo. D'autres sources avancent un bilan d'au moins des 17 personnes tuées et d'autres blessés. C'est vraiment une scène tragique et de la tristesse, raconte un journaliste local. Les circonstances exactes de ces massacres demeurent floues. La ville voisine de Goma n'a pas non plus été épargnée. Un jeune homme a été également tué la nuit dernière par des hommes armés dans le quartier Katindo. Ces cas survient un jour seulement après la mort de 4 autres personnes dans le quartier Lac Vert à l'ouest de la ville. Mardi dernier, un jeune entrepreneur et vendeur de crédit a été tué à bout portant sur son lieu de service dans le quartier Katindo Carmel. Selon les Gomatraciens, c'est chaque jour et chaque nuit qu'ils l'ont tué à Goma. Désemparée, la population des Goma et des Nyiragongo ne sait plus à quel sens est vouée. Ce nouveau drame vient exacerber le climat de peur, de terreur et d'insécurité constant qui prévaut au sein des communautés.
L'on compte encore des morts en Ituri. 8 personnes ont été tuées jeudi et vendredi par le rebelle des ADF à Tukpalele et à Boulembi, deux collines surplombant le village Idou, dans la chefferie de Walese Vonkutu. Selon le responsable militaire des FRDC dans le territoire des Rumu, ces hommes armés ont surpris les paysans dans leurs champs. 3 des 8 corps ont été décapités par les assaillants, d'après le président de la société civile de ce territoire. D'autres détails avec Jean-Claude Loki.
Selon nos sources, ces civils parmi lesquels des femmes étaient parties chercher des vivres au champ, c'est là qu'ils ont été attaqués par des rebelles des ADF qui circulent dans cette zone agricole très fréquentée par les agriculteurs. Au péril de leur vie, précise un habitant jouant au téléphone ce matin. Les corps des 3 personnes tuées à la machette ont été récupérés vendredi par la population, affirme ce même habitant. Il ajoute que les 5 autres corps sont toujours abandonnés à Aboulembi. Ce bilan reste malheureusement provisoire. Plusieurs autres personnes dont les nombres n'est pas connu ont été kidnappés par ces rebelles localisés au niveau de la rivière Ituri. Ce samedi matin, la communauté était toujours sans nouvelles d'elle. Les rebelles des ADF se dissimulent dans la forêt, fouillant les opérations militaires conduites par des armées ougandaises. La société civile plaide pour l'installation d'oppositions militaires dans cette partie du territoire d'Irumu pour sécuriser les populations victimes des attaques à répétition de ces rebelles. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Dans les territoires de Béni, la prise en charge médicale des malades reste problématique. Au centre de santé Mabalako, situé à environ 50 km à l'ouest de la ville de Béni, le personnel soignant qui avait fui la zone il y a quelques mois en raison des exactions de groupes armés n'est toujours pas revenu. De plus, cette structure sanitaire manque de médicaments, bien qu'elle offre un service minimum à la population. La société civile locale plaide pour un soutien urgent à cette unique structure sanitaire qui vient en aide à des dizaines de milliers de personnes. Tchétché Moussoubao Aliamini, président de la société civile des Baswaga Lubena, est au micro de Marc Marofimbo.
Il y a des activités qui reviennent timidement. Mais le centre de santé Mabalako, qui chapeaute même le village Mabalako, était touché parce que le centre est dans les quartiers qui étaient touchés par les deux groupes armés, là où il y a des affrontements. Alors, même les infirmiers, même les malades, étaient obligés de fuir comme tout autre déplacé pour s'échapper des atrocités de ces deux groupes armés. Même les infirmiers, comme s'étaient déplacés, petit à petit, de revenir, en train de venir regarder si réellement la paix est revenue dans ces quartiers de Mabalako. Il y a même insuffisance des médicaments dans les centres de santé. Et j'espère avec le management que nous sommes en train de faire avec la zone de santé, les messieurs chefs de zone sont en train de se démener pour que les activités reviennent dans ces postes, dans les centres de santé qui étaient touchés aussi à cause des atrocités de ces deux groupes armés.
Ce journal se poursuit sur Radio Okapi. Les conditions de vie des détenus à la prison centrale de Kisangani sont actuellement déplorables. Les 1350 pensionnaires de cet établissement carcéral manquent de nourriture suffisante et de soins de santé appropriés. Le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo a été informé de cette situation jeudi par le directeur de la prison. Ce dernier a précisé que l'augmentation du nombre de détenus, notamment des militaires ayant fui la guerre à l'est du pays, en est l'une des causes. Le point avec Jacques Moukonkole.
La précarité de la vie dans la prison centrale de Kisangani n'est pas sans conséquence. Une vive tension y prévaut. Entre-temps, la cohabitation entre les civils et les hommes en uniforme pose problème, souligne le directeur de la prison centrale, César Mouimba.
C'est la capacité d'accueil d'abord de la prison. La prison était construite pour une capacité de 500 pensionnaires, mais aujourd'hui, la prison regorge 1350 détenus. À manger, ça pose un problème. Et c'est tout comme les militaires ont leur philosophie, avec les civils ensemble, il y a toujours des mauvais climats. Le climat est tendu au sein de la prison centrale.
Ces informations ont été portées à la connaissance du président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo par le directeur de la prison centrale de Kisangani. Mathieu Kangalondimo promet de contacter les autorités compétentes pour des dispositions idoines. Rappelons que la prise en charge des prisonniers est assurée par le gouvernement congolais. Parfois, des organisations caritatives et des communautés religieuses apportent également leur assistance sporadiquement chaque fois qu'elles le peuvent. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans le même chapitre, la société civile du territoire de Boulongo, dans la province du Kwilu, dénonce les mauvaises conditions carcérales dans la prison centrale du même nom. Dans un entretien avec Radio Okapi hier vendredi, son président a indiqué que les détenus manquent des nourritures et des médicaments. Cette situation est due à l'absence de subventions pour cette maison carcérale. En conséquence, plusieurs prisonniers sont malades, certains souffrent de malnutrition et le décès se multiplie avec près de 15 morts depuis le début de l'année, selon Franck Kitampintu. Il appelle le gouvernement congolais à prendre ses responsabilités et à envoyer des subventions à cette prison. Franck Kitampintu, président de la société civile de Boulongo, est joint par Irène Mbomaluzolo.
Problème de la prison. Les détenus et les condamnés n'ont pas à quoi se nourrir. Mais il y a des gens qui meurent de faim chaque fois, ils passent de nuit affamés. Il y a des quoi sur là-bas, il y a des gens qui souffrent, il y a des maladies, il y a des décès. Chaque mois, peut-être chaque semaine après, il y a des décès, deux ou trois morts. Le dernier décès que nous avons enregistré, c'était la semaine passée. C'est un homme âgé de plus de 40 ans. Il était décédé, il était malade, il souffrait, il avait gonflement des jambes, il n'arrivait plus à se lever. Il faisait pipi sur place et caca sur place. Il était touché par la maladie kwashiorkor. Pour la malnutrition, il n'avait pas une prise en charge parce qu'il y avait manque de moyens. La prison de Boulongo n'a pas de subvention ces derniers moments. Ça fait plus de 5 mois depuis qu'il n'a pas de subvention dans les milieux carcérales de Boulongo. Depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, il se donne à de 15 à 17 détenus de série. La société civile demande au gouvernement de pouvoir envoyer la subvention au niveau du milieu carcéral au temps opportun pour prendre des soins de ces gens dont les gens sont en train d'être tués par des maladies, par la non-assistance et la non-prise en charge par le gouvernement.
Il est important de noter que cette prison, initialement construite pour accueillir 30 détenus, en héberge aujourd'hui plus de 150 déplorés. Franck Kitampindo, il plaide également pour la construction d'une nouvelle prison centrale à Bulungu. Le chef de l'État a préconisé la création d'une commission ad hoc pour évaluer de manière exhaustive l'état de la voirie et de l'assainissement. Cette proposition a été faite lors de la 38e réunion ordinaire du Conseil des ministres tenue hier vendredi, selon le compte-rendu lu par Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement. Cette commission devra formuler des recommandations et proposer des mesures urgentes. Cette décision fait suite à la situation déplorable de la voirie, notamment dans la ville de Kinshasa. Écoutons Patrick Muyaya dans ce texte choisi par Jacques-Yves Molima.
De la voirie urbaine et de l'assainissement de la ville de Kinshasa. En dépit des efforts déployés, les défis à relever pour la ville de Kinshasa sont énormes face à la dégradation de sa voirie et de son système d'assainissement. Cette situation entrave gravement la circulation des habitants et impacte leur qualité de vie. Pour parer à cette situation continue, il est impératif que le gouvernement central et celui provincial agissent rapidement en prenant des mesures afin de permettre à la population kinoise de vivre dans un environnement sain et accessible. Ainsi, le président de la République a invité Madame la Première ministre à mettre en place une commission ad hoc qui devrait être composée des membres de son cabinet, des différents ministres concernés, ainsi que du gouverneur de la ville afin d'évaluer de manière exhaustive l'état de la voirie et de l'assainissement. Il apparaît nécessaire qu'un mécanisme d'évaluation périodique soit mis en place afin de s'assurer de l'effectivité des travaux. L'objectif de cette commission sera de formuler des recommandations concrètes et de proposer des mesures d'urgence pour remédier à cette situation déplorable.
La Commission électorale nationale indépendante CENI a publié vendredi sa feuille de route pour le processus électoral 2025-2029. Selon le président de la Commission, ces documents détaillent toutes les activités nécessaires à la préparation des élections nationales, provinciales et locales de 2028. Les détails avec René Lintimbonera.
Il s'agit d'un document structurant les différentes activités de la CENI en trois séquences. Pour la première séquence, la CENI prévoit les préparatifs et l'acquisition du matériel pour l'identification et l'enrôlement des électeurs dans une province pilote de septembre de cette année. Pendant ces temps, entre octobre 2025 et février 2026, période prévue pour l'acquisition complète du matériel, l'enrôlement proprement dit débutera en septembre 2026, soit un an après la phase pilote. Dans sa seconde phase, entre juillet et octobre 2028, la CENI procédera à la réception et au traitement des candidatures pour l'élection des députés nationaux. Cette étape sera suivie par la réception des candidatures de députés provinciaux pour se conclure en novembre 2028 avec la réception et le traitement des candidatures à l'élection présidentielle. L'élection générale, quant à elle, interviendra en décembre 2028 avant l'annonce des résultats provisoires en janvier 2029. La troisième phase de cette feuille de route, prévue pour avril 2029, met l'accent sur les élection des sénateurs, de gouverneurs, des maires, des conseillers urbains et de bourgmestres. Pour Denis Kadima, président de la CENI, je cite, « Cette feuille de route constitue notre boussole pour les années à venir. Elle est un outil de planification rigoureuse et un gage d'engagement de la CENI à remplir sa mission », a-t-il déclaré lors de la cérémonie de présentation de ses documents.
Jeune femme, mère et entrepreneur, entre résilience et réussite est le thème de la première édition de The Branch. Entendez par là le déjeuner organisé hier vendredi à Kinshasa par la Commission nationale des jeunes entrepreneurs, CNJE, de la Fédération des entreprises du Congo FEC. Cette initiative qui a rassemblé des femmes entrepreneurs vise à célébrer et mettre en lumière des modèles de réussite exceptionnels, tant personnels que professionnels, malgré le nombreux défis. L'objectif est d'inspirer et de motiver les jeunes femmes à croire en leurs capacités et à poursuivre leurs rêves avec détermination. Écoutons Ruth Paola Ngwanza, vice-présidente de cette structure en charge de la communication, au micro de Grâce Hamzati.
Nous avons remarqué que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont beaucoup de défis auxquels ils font face, surtout les jeunes femmes. Après la maternité, les jeunes femmes n'ont plus les mêmes chances que les hommes. Elles ne réussissent pas au même titre que les hommes parce que justement, les femmes sont butées à ce problème de maternité. Elles ont de congés de maternité, elles ont de repos, des défis auxquels la plupart de jeunes hommes entrepreneurs ne font pas face. Mais aux côtés de tous ces obstacles et tous ces problèmes que rencontrent les femmes, il y a également des réussites. Il y a également des femmes qui sont des modèles de résilience, des modèles de force et de courage. Et c'est ce profil des femmes-là que nous avons décidé aujourd'hui de présenter aux jeunes pour qu'elles puissent s'inspirer. Donc, 5 magnifiques femmes ont défilé aujourd'hui, nous ont ramené leurs témoignages, leur histoire inspirante. Et les jeunes ont vraiment été satisfaites. La commission jeunes entrepreneurs de la FEC est dirigée par Madame Tissia Mukuna, qui est d'ailleurs l'initiatrice et la conceptrice de cette activité que nous avons eue. Et le brunch va se tenir une fois le 3 mois, donc chaque trimestre, avec de différentes thématiques. La Fédération d'entreprises du Congo reste grandement ouverte pour tous les entrepreneurs, jeunes, femmes, peu importe votre âge, la FEC est ouverte pour tout le monde et n'hésitez vraiment pas à prendre part à toutes les activités et pourquoi pas à adhérer à notre fédération.
Actualité internationale.
Alors que des délégations françaises et britanniques étaient à Kiev pour rencontrer hier le président Volodymyr Zelensky et parler d'une éventuelle présence des troupes étrangères de maintien de la paix sur le sol ukrainien, la Russie continue de frapper l'Ukraine quotidiennement. Des drones ont à nouveau été lancés au cours de la nuit du 4 au 5 avril sur plusieurs régions du pays, alors que un jour plus tôt, c'était la ville de Kryvyi Rih qui était à nouveau touché par un missile balistique russe. Ainsi, à Kryvyi Rih, la ville natale du président Zelensky, le bilan est lourd. À la suite d'une frappe russe, on compte 18 morts, dont 9 enfants, une soixantaine de blessés lorsqu'un missile balistique de type Iskander, selon Kiev, s'est abattu sur une zone résidentielle. La Russie rétorque qu'il s'agissait d'une frappe de précision avec un missile hautement explosif sur un restaurant de la ville où se réunissaient des commandants de formation et des instructeurs occidentaux. Cependant, les images montrent une frappe sur une zone résidentielle près d'une aire de jeux pour enfants située à environ 80 km de la ligne de front. La ville de Kryvyi Rih est régulièrement la cible d'attaques aériennes depuis le déclenchement de l'invasion russe en février 2022. Environ 600 000 personnes y habitaient avant la guerre. En Corée du Sud, des milliers de personnes sont descendues dans la rue de Séoul ce samedi pour protester contre la destitution la veille de l'ex-président sud-coréen Yoon Suk, démis pour tentative ratée d'imposer la loi martiale début décembre.
L'invité.
Depuis quelques jours, l'armée a lancé un processus de recrutement des jeunes pour intégrer les FRDC à Beni, Butembo et Lubero au Nord Kivu. Cependant, il n'est pas rare que des mineurs se présentent parmi les candidats avec le soutien de la MONUSCO et ses partenaires. Ces enfants sont séparés avec d'autres recrues. Quelle est l'importance de cette démarche et pourquoi la sensibilisation de ces recrues par la MONUSCO au respect des droits de l'homme est-elle cruciale? Pour en parler, notre invité du jour est le colonel Faustin Dakala, directeur de l'information, de la sélection et de l'orientation de la 34e région militaire des FRDC au Nord Kivu. Il s'entretient avec Martial Papi Mukeba.
Colonel Faustin Dakala, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quel est l'objectif principal de cette formation pour les nouvelles recrues des FRDC au camp militaire de Nyaleke?
Nous sommes toujours dans un centre de présélection pour que ces jeunes gens commencent leur formation militaire. Ce centre de Beni, c'est un centre préparatif pour que ces jeunes gens commencent leur formation militaire. Ici, nous ne sommes pas dans un centre de formation des militaires.
Et aujourd'hui, vous avez combien de recrues ici?
Nous avons 255 recrues sélectionnées. Ils sont venus d'un peu partout. Nous avons des jeunes gens qui sont venus de Goma, de Kanyabayonga, dans Lubero, Butembo et Beni. Tous sont regroupés ici.
Quels sont les critères de sélection des recrues et comment s'assurez-vous de leur aptitude physique et morale avant leur intégration?
Les FRDC sont très rigoureux pour la sélection des jeunes gens pour embrasser l'armée. Nous avons plusieurs critères. D'abord, le critère âge. Nous sommes affiliés aux droits de l'homme. Les FRDC ne peuvent pas recruter les mineurs. 2, il faut être de nationalité congolaise. Nous devons nous assurer que réellement vous êtes congolais. Nous avons plusieurs mécanismes pour nous rassurer de ce cas-là. Nous avons la moralité. Nous devons aussi nous assurer que les jeunes gens qui veulent embrasser l'armée ont une bonne moralité. C'est pourquoi nous passons un certain temps avec eux. Ensemble, nous mangeons, nous faisons au moins 3 mois. Le minimum possible, c'est 2 mois. Vivons avec ces jeunes gens-là pour nous assurer, pour nous rassurer de leur moralité. Pas fumer du chanvre, le viol, les vols, la façon d'être. Nous aimerions que notre armée ait des bons militaires qui savent, qui respectent les normes de la société.
Et par rapport à l'aptitude physique?
Nous avons des spécialistes, des moniteurs, nous. Il y a plusieurs exercices pour déceler que réellement ces jeunes gens-là sont aptes. Et à part ces tests d'aptitude physique générale, nous avons aussi les tests de nos médecins, les tests médicaux, où nous devons aussi nous assurer que les jeunes gens ne sont pas malades, ils n'ont pas de maladies débilisantes.
Alors, quel rôle joue la MONUSCO dans les screenings des recrues et en quoi cet appui est-il essentiel pour garantir que seuls des éléments éligibles rejoignent les rangs des FARDC?
La MONUSCO joue un rôle capital. D'abord, il nous aide à vérifier si réellement les mineurs ne se sont pas glissés lorsque nous avons passé le premier test. Donc, la MONUSCO vient vérifier, s'assurer que réellement tous ces jeunes gens-là que nous avons sélectionnés sont majeurs. Et une fois que la MONUSCO et leurs partenaires ont décelé qu'il y avait certains mineurs qui se sont glissés, et ils prennent en charge directement ces jeunes gens-là. Ils font tout pour remettre ces jeunes gens-là après X temps auprès de leurs parents.
Comment la MONUSCO accompagne-t-elle les FARDC dans la sensibilisation des nouvelles recrues au respect des droits de l'homme, des droits des enfants et des principes des Nations Unies?
Ils viennent sensibiliser, pas une seule fois, mais plusieurs fois, nos jeunes gens qui ont été sélectionnés pour leur respect strict des droits de l'homme. Et coup de chapeau à la MONUSCO, ils nous aident beaucoup à cette sensibilisation. Il y a une sensibilisation pédagogique. Lorsque nos militaires sont en pleine opération, ils doivent suivre scrupuleusement les principes de guerre, à savoir le droit humanitaire international. Et c'est là où la MONUSCO intervient beaucoup trop. Et lorsqu'il y a dérapage, nos militaires ne peuvent pas dire qu'ils sont ignorants. Ils connaissent cela parce qu'ils ont été formés. La MONUSCO est intervenue. Même pendant la paix, la MONUSCO intervient toujours. Voilà qu'au début de la formation de ces jeunes gens, la MONUSCO est toujours présente. Nous disons coup de chapeau à la MONUSCO.
Une fois la formation terminée, quelles sont les prochaines étapes pour ces recrues avant leur affectation sur le terrain?
Une fois la formation terminée, ces jeunes gens-là, on doit les enregistrer. Ils doivent passer par la biométrie. C'est-à-dire quoi? Il y a un recensement général, la prise en charge de ces gens-là qui doivent maintenant se reconnaître comme membres effectifs des forces armées de la République démocratique du Congo. Après cet exercice-là de biométrie, ils sont affectés dans différentes unités en tant que militaires des forces armées de la République démocratique du Congo.
Colonel Faustin Dakala, merci.
Je vous en prie.
Notre invité, le colonel Faustin Dakala, directeur de l'information, de la sélection et de l'orientation à la 34e région militaire au Nord Kivu, répondait aux questions de Martial Papi Moukeba. C'est la fin de ce journal, mis en onde par Jean-Claude Nsiala, supervision par Jacques-Yves Moliman et présentation par Gisèle Cage. Vous avez été nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme sur Radio Okapi continue. Je vous retrouve demain sur la même fréquence. Excellent week-end à tous.